Chapitre 2. Examen général de la main. Le chiromancien, avant de consulter les lignes et les monts, examine la physionomie générale de la main. Il se renseigne de cette façon, avec assez de précision, sur le caractère et les habitudes du sujet. Et ses observations préliminaires lui seront d'un certain secours pour le classement des découvertes plus circonstanciées qu'il fera, en étudiant pour ainsi dire les profondeurs révélatrices de la main. La figure ci-dessus montre les divisions magiques du doigt. La première phalange, la phalange onglée, représente la partie en communication directe avec les astres. C'est l'inspiration. C'est aussi, dans ses rapports avec la phalange suivante, la volonté. La seconde phalange représente l'intelligence. Ces deux premières phalanges sont séparées par le nœud philosophique, limite entre le monde divin, surnaturel, et le monde moral, un peu inférieur en qualité. La troisième phalange est la phalange de la matière. On y arrive par le nœud d'ordre matériel qui s'attache à la main proprement dite. Le pouce est le doigt par excellence. C'est l'indice de la supériorité et de la volonté, car, à lui seul, il peut imposer sa volonté aux quatre autres doigts qui, eux, ne peuvent rien faire sans lui. L'homme seul possède le pouce. Aussi est-ce ce doigt qu'il faut examiner de plus près en ses différentes transformations. Première phalange. Si elle est courte, volonté faible. Longue et forte, volonté tenace, énergique, vif désir de dominer et d'arriver à la perfection. Trop longue, exagération du désir de dominer, tendance à la tyrannie. Moyenne, résistance plutôt passive, force d'inertie. Très courte, insouciance extrême, opinion changeante, enthousiasme et désespoir prompts et irréfléchis, caractère sans consistance. Deuxième phalange, longue et forte, intelligence et logique puissante. Courte, logique faible, intelligence plutôt médiocre. La figure D indique la forme la plus habituelle du pouce, la moyenne ordinaire, un juste équilibre entre les diverses facultés. Comparaison entre la première et la deuxième phalange. Si la première phalange est plus forte que la seconde, la volonté dominera une logique faible. Le sujet sera très maître de lui, mais son intelligence ne lui sera malheureusement pas d'un secours suffisant. Si au contraire, la seconde phalange est de beaucoup plus longue que la première, le sujet aura plus de logique que de volonté, il sera intelligent, mais sans foi en lui-même. Troisième phalange. Dans le pouce, cette troisième phalange est constituée par le mont du pouce ou mont de Vénus. Elle est le siège de la matière, comme dans les autres doigts, mais aussi plus particulièrement de l'amour sensuel. Si donc cette phalange et le mont qui la recouvre sont très développés, cela signifie que la passion brutale dominera le sujet. Si elle est de taille et de développement plus modeste, plus en harmonie avec les autres phalanges du pouce et aussi avec le reste de la main, le sujet sera amoureux encore, mais modérément, raisonnablement. Si cette partie est déprimée, sécheresse de cœur, répugnance pour l'amour brutal, sensualité nulle. Dans le pouce, ce doigt par excellence qui caractérise l'homme, il semble que la nature ait voulu se laisser deviner plus que dans aucun des autres doigts. C'est ce qui explique pourquoi, d'une manière générale, les personnes franches, les bonnes natures, portent en marchant la main grande ouverte et laissent le pouce bien apparent et tourné en dehors, tandis que les gens hypocrites, cauteleux, dissimulent inconsciemment le leur et, comme pour ne pas laisser entrevoir leur vilaine âme, conservent toujours la main à demi fermée. Cette remarque, presque infaillible, nous a été suggérée par une longue expérience. Elle est en tout cas un peu plus facile à contrôler. Forme des doigts. Les doigts peuvent affecter trois formes particulières qui les font ranger en autant de catégories distinctes. Ils peuvent être spatulés, c'est-à-dire que l'extrémité s'évase un peu. Ils peuvent être carrés. Ils peuvent être effilés ou pointus. Voici les diverses significations de ces trois formes particulières. Doigts spatulés. Désir de l'action, sentiment développé de l'intérêt matériel. Homme pratique, travailleur acharné. Doigt carré, homme d'ordre, de raison. Doigt pointu, poète, inventeur, propension à l'extase, à l'inspiration. Trois exemples feront comprendre les caractères qui s'attachent à ces formes. Rubens avait les doigts spatulés, Rubens, le peintre charnel. Le Poussin, Albert Durer, avait les doigts carrés, c'était des peintres de la réalité raisonnée. Enfin Raphaël, le Péruguin, avait des doigts pointus, bien en harmonie avec leur art tout imaginatif. Les nœuds. Les doigts peuvent être lisses ou montrer des nœuds plus ou moins développés. Voici les noms de ces nœuds et leurs situations respectives. Le nœud qui sépare la phalange onglée de la seconde phalange s'appelle nœud philosophique. S'il est développé, il y a accord entre vos idées morales et vos idées philosophiques et surnaturelles. Vous avez des dispositions à passer de la vie intelligente aux spéculations d'ordre spirituel. Le second nœud, situé entre le monde matériel et le monde moral, s'appelle nœud d'ordre matériel. S'il est fort visible, cela indique que vous vous préoccupez spécialement de votre avenir matériel. Votre fortune et votre santé vous intéressent davantage que la vie à venir et les dissertations philosophiques et scientifiques. Si le doigt pointu est compliqué du nœud philosophique, cela indique qu'il y a désaccord, lutte entre la raison et l'imagination. Si le doigt orné du nœud philosophique est au contraire carré, cela est plus régulier. Il y a en effet harmonie. Le doigt carré indiquant l'homme de raison et le nœud philosophique, la recherche, le raisonnement. Le doigt spatulé, à nœud philosophique, dénonce les tendances à rapporter à la réalité les raisonnements spéculatifs. Les esprits politiques, par exemple, en sont pourvus. Tels sont les principaux caractères que dévoile la forme des doigts chez l'homme adulte. On peut en suivre les transformations depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse de l'individu. Une application suivie peut changer le mode de vie, les préférences matérielles ou philosophiques, et par contre-coup, modifier la structure des phalanges et des nœuds. Mais on ne saurait affirmer absolument les révélations de cet ordre, l'absolu ici n'existe pas. Il se trouve en effet des mains moyennes qui semblent banales, sans caractère spécial, d'une harmonie déconcertante et qui appartiennent à des hommes d'esprit supérieur, à des artistes renommés, à des écrivains célèbres. Dans certains manuels de chiromancie, on cite dans ce genre, comme hommes à doigts mixtes, Lamartine, Émile Augier, le peintre Delaroche, Jules Janin, Aubert le musicien, etc. Monsieur d'Arpentigny prétend que ses mains sont toujours d'ordre inférieur. Les noms cités plus haut, appartenant à des artistes également soucieux de la poésie et de la vérité, suffiront à prouver que Monsieur d'Arpentigny s'avance un peu trop dans ses affirmations. Cependant, cet écrivain est d'ordinaire fort sérieux. Voici de lui un fragment qui détaille ce que nous avancions il y a un moment, à savoir que la main se modifiait avec l'âge. Peut-être avez-vous remarqué que le goût de l'agriculture nous gagne à mesure que nous vieillissons. Ce goût, faible d'abord, grandit peu à peu et se développe en raison de l'affaiblissement des facultés de notre imagination. Et c'est quand nos mains, raides, comme ossifiées et devenues presque insensibles, offrent la fidèle image de notre intelligence appauvrie, que cette manie de labourer nous domine avec plus d'empire. Nous devenons également plus rangés, moins crédules, plus logiques, à mesure que les nœuds de nos doigts se dessinent et se montrent davantage. Cet auteur divisait les hommes en deux catégories, les hommes aux doigts lisses et les hommes aux doigts noueux. Il accordait aux hommes à doigts lisses l'inspiration, l'intuition, l'impressionnabilité, le caprice, le goût des beaux-arts et de la poésie. Et aux hommes à doigts noueux, l'ordre, l'aptitude aux sciences, au calcul, la réflexion, le goût du travail. Le bloc de la main. À première vue, les doigts sont longs ou courts. Les doigts longs signifient amour des détails, imagination vive et ardente. Un artiste qui aura, par exemple, les doigts longs et pointus, aura tendance à soigner plus les détails que l'ensemble de son œuvre, ce qui pourra dans certains cas lui nuire et devenir pour lui une cause d'infériorité réelle. Les doigts courts appartiennent plutôt aux gens à l'esprit étroit, au caractère sensuel, et caractérisent les instincts matériels. La main peut également être dure ou molle. La main dure, qui est celle des travailleurs et des sanguins, dénote l'activité, le goût du travail, la résolution, le courage, la virilité en un mot. La main molle est l'apanage des paresseux, des sensuels, des gourmands. La main dure est généralement sèche et chaude, alors que la main molle est moite et froide. Elles appartiennent chacune à des tempéraments absolument opposés. La main longue, blanche, aux doigts maigres et effilés, est la main par excellence des artistes et des belles natures. La main courte, potelée, aux doigts gros, carrés et courts, appartient souvent aux gens rusés, côteleux, hypocrites. La main longue et étroite dénote de l'habileté, de l'adresse. La main courte et carrée, sans être grosse, est la main du meurtrier. Très petite, c'est l'indice de la coquetterie, de l'esprit vif et subtil, incisif, mordant. La main courbée et raide, aux doigts infléchis en dedans, est la main des avares, des gens à l'esprit étroit, enclins à thésauriser. Une main large est préférable à une main étroite. Pour qu'une main soit réellement belle, elle doit avoir en largeur la longueur du doigt du milieu. La couleur a également son importance et sa signification. La main blanche est la main des gens calmes, à l'esprit posé, réfléchi. La main rouge est la main des sanguins, des forts, des volontaires, des énergiques. La teinte rouge foncée, presque brune, est l'indice des gens violents, brutaux. Enfin, la main des nerveux est jaune, exsangue. Les ongles. La chiromancie n'étudie que l'intérieur de la main. Si nous nous arrêtons un instant aux ongles, c'est qu'ils sortent pour ainsi dire de cet intérieur, en sont une émanation. D'après Balzac, dans son roman kabbalistique Louis Lambert, les ongles sont une transformation en cornes de l'extrémité de nos fluides et servent d'intermédiaires entre ces fluides et l'immatériel, l'invisible. Les ongles très longs, nous ne parlons pas ici des ongles qu'on ne coupe pas et qui signifient simplement malpropreté ou pose sotte, nous faisons allusion à la longueur de l'ongle depuis la racine jusqu'à l'extrémité du doigt. Les ongles très longs, donc, et peu larges appartiennent par conséquent à des doigts pointus et caractérisent les imaginatifs. Les ongles très courts, en quelques doigts qu'ils se rencontrent, dénoncent un caractère envieux. Quand ils sont courts et larges à la fois et que la peau monte très haut, nous sommes en face d'un caractère batailleur, belliqueux. Mais si de précédentes découvertes chiromanciennes vous ont appris que vous aviez affaire à une personne bonne et bienveillante, les ongles courts et larges indiquent que malgré ces qualités, le sujet a une tendance à railler, à persifler, à critiquer, et cela, sans raison, bien souvent. Les ongles trop bombés appartiennent à un petit esprit. Très minces et mal plantés, poussant obliquement, ils sont le signe d'une grande faiblesse d'esprit qui peut en certains cas aboutir à la folie. Les ongles durs, rosés et bien proportionnés, indiquent que l'on possède toutes les qualités du cœur et de l'esprit. Pointus et roses pâles, ils indiquent une certaine délicatesse de tempérament, une santé aménagée. Profondément enfoncés dans les chairs et non adhérents avec elles, ils sont l'indice d'une grande cruauté, d'une férocité froide. Épais, durs, irréguliers dans leur épaisseur, c'est la bestialité, les sentiments bas et vils. Enfin, quelques-uns prétendent que les taches blanches qui se remarquent quelquefois sur les ongles sont la trace d'autant de mensonges ayant fait tort à une autre personne, mais ceci nous paraît un peu puéril. Les jointures des doigts. Nous avons dit plus haut que les doigts ont 14 jointures. Les plus importantes sont celles de la base du doigt, celles qui avoisinent chacun des monts. Les jointures supérieures n'ont pas de grande signification. Aussi n'en dirons-nous que quelques mots. Jointure supérieure. Si la jointure est formée de 4 lignes égales et droites, c'est un signe d'abondance. 4 lignes égales et obliques, nombreuses et importants héritages. 4 lignes inégales, soit droites, soit obliques, trahison dans les affections. 3 lignes droites ou obliques, bonheur parfait. 2 lignes bien accentuées, bien colorées et droites, réussite en tout. Deux lignes, dont la première est droite et la supérieure formée par la superposition d'une autre ligne qui la croise. Bonheur certain en ménage et réussite en affaires. Ces prédictions sont un peu enfantines, trop générales, et nous n'y ajoutons, disons-le tout de suite, que fort peu de fois. Jointure du pouce. Le pouce, à sa base, repose sur le mont de Vénus. Sa première jointure doit être longue, large et profonde, ce qui est généralement. S'il sort de cette jointure des petites lignes qui se perdent, dans le mont de Vénus, chaque ligne est autant de trahisons conjugales. Une ligne partant de la première jointure du pouce pour se diriger vers l'index est d'un très heureux augure, quand bien même elle serait coupée dans sa route par d'autres lignes principales, secondaires ou accidentelles. C'est l'assurance certaine du bonheur conjugal et l'absolue certitude que la mort ne surprendra l'un des époux qu'après la 40e année de leur mariage. Une ligne coupant le pouce et à cheval sur l'une des deux jonctures, qu'elle soit droite, courbe ou oblique, est un signe de dérangement d'esprit occasionné par un profond amour méconnu. Si la ligne est très creuse ou très large, la folie sera perpétuelle et occasionnera la mort du questionnant. Cette ligne est heureusement fort rare. Jointure de l'index. Si la ligne qui forme cette jointure est unique, longue, bien droite, profonde et large, c'est l'indice d'un esprit juste, d'un bon tempérament, d'un heureux naturel. À peine marqué, facilité d'élocution, astuce, finesse. Accompagné de petites lignes obliques en forme de rameaux ou de petits cercles, probité, faiblesse par excès de bonté. Si la jointure est traversée par une ligne venant de la paume de la main, même par un prolongement de plusieurs raccords, qu'elle s'étende ou non vers les autres jointures, c'est le signe du malheur qui vous poursuivra toujours, malgré vos qualités, votre courage, votre patience pour arriver à réussir ici-bas. Cette marque terrible du destin pourra détruire vos plus savants projets et vos plus sérieuses chances de réussite. Jointure du médium. La première jointure du médium, ou doigt de Jupiter, doit être bien nette, peu profonde, aussi large que profonde, et être accompagnée de petites lignes obliques ou chevelues. Sous cet aspect, elle ne dit rien, étant tout à fait normale. Si au contraire elle est large, très profonde, nettement tranchée, sanguine, formant collier au doigt, et ne possède ni ligne accidentelle, ni courbe, ni rameau, ni trace quelconque la touchant, c'est signe que l'on sera décapité ou pendu, quelquefois que l'on mourra assassiné par la strangulation ou la gorge tranchée. Heureusement, cette jointure épouvantable est rare. S'il se trouve des lignes droites entre la première et la seconde jointure, ces lignes signifient bonté, crédulité, simplicité. Si les lignes sont courbes, cela signifie trahison d'amis. Par conséquent, soyez circonspect toute votre vie envers vos faux et même vos véritables amis. Les premiers, vous trahirez par méchanceté, les autres, vous nuirez par leur bavardage, tout en croyant ne pas vous porter tort. Les lignes verticales et horizontales, formant échelles ou grilles entre les jointures, indiquent que la fatalité se mettra quelquefois en travers de vos succès de fortune ou d'amour. Jointure de l'annulaire. Large, bien droite ou bien oblique, aussi profonde que large, sans ligne latérale ni accidentelle, sans marque de signe quelconque et bien nette de toute trace sanguine, signification par excellence, magnanimité, imagination féconde, esprit vif et profond, honneur et juste renommée, tels sont les heureux augures de cette précieuse jointure. Autant il se trouvera de lignes verticales entre la première et la seconde jointure, autant de garçons l'on aura, autant de lignes horizontales, autant de filles. Si la première jointure est inégale et formée par plusieurs petites lignes, ces lignes marquent un esprit loyal, des joies passagères de courte durée, des alternatives de hausse et de baisse dans la fortune, mais jamais de misère. Si cette jointure ainsi décrite est attenante à de petites lignes accidentelles, à peine visibles et formant rameaux, demi-cercles ou losanges, cela présage des difficultés pour réussir à contracter mariage selon son cœur, mais ce n'est qu'un retard assez long car l'union, surtout s'il y a des cercles, aura certainement lieu. Les lignes obliques, placées entre n'importe quelle jointure, signifient dette, traverse, ennui. Coupé par une ou plusieurs très grosses lignes verticales ou obliques, cela indique, par chaque ligne, le nombre de maladies graves qui vous atteindront. Rassurez-vous, aucune ne sera mortelle. Si, au contraire, les lignes forment des demi-cercles superposés entre les jointures supérieures ou inférieures, ayant une assez juste ressemblance avec des écailles de poisson, c'est le signe d'une excellente santé et d'une nombreuse famille dont tous les membres jouiront aussi d'un très robuste tempérament. Jointure du petit doigt. La première et principale jointure du petit doigt est d'ordinaire oblique, de gauche à droite pour la main gauche, de droite à gauche pour la main droite. Elle doit être plus creuse, plus accentuée et cependant moins large que les jointures des autres doigts. Ainsi faite, elle indique un esprit droit, élevé et assure la parfaite tranquillité du cœur. Cette jointure, coupée par de petites lignes presque horizontales ou par des demi-cercles, indique une finesse d'esprit qui frise la ruse et l'astuce. Des lignes verticales inégales et peu profondes entre les jointures du petit doigt, quelles qu'elles soient, supérieures ou inférieures, indiquent un caractère agréable, un esprit rieur, ne détestant pas le plaisir aimable et paisible. Quelquefois aussi, ces petites lignes accidentelles symbolisent le goût des voyages, le plaisir de se déplacer, mais pour qu'elles aient cette signification, elles doivent être plus creuses, plus larges et nombreuses. Enfin, une ou plusieurs lignes accidentelles, non régulières, formant un profond sillon inégal, semblable à une cicatrice, c'est l'indice de douleurs morales profondes, de blessures au cœur inguérissables, inoubliables. Bien entendu, ces lignes indiquées par la lettre D à l'extrémité du doigt ont la même valeur placées entre les autres jointures.